إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, bienvenue à vous pour ces assises durant lesquelles nous allons nous réunir afin de lire des hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, nous sommes entrés dans le mois de Dhul-Hijjah, dont les 10 premiers jours ont été favorisés par Allah subhanahu wa ta'ala, et durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées d'Allah, plus pures auprès d'Allah, plus méritoires et plus grandes en termes de récompenses que les œuvres accomplies durant les autres jours de l'année. Par conséquent, j'ai jugé utile que l'on se rappelle de certains hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exposé les différentes manières de faire le bien. Et pour cela, j'ai choisi de lire un chapitre de l'excellent ouvrage d'Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala intitulé « Riyad al-Salihin » « Les jardins des vertueux ». Dans ce livre, il a intitulé un chapitre « L'exposé de la diversité des voies de bien ». C'est-à-dire qu'il va nous exposer les différentes manières par lesquelles il est possible de faire des bonnes actions et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le bien, il a différentes voies. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Afin que tu puisses te rapprocher de ton Seigneur de différentes manières et ainsi obtenir de nombreuses récompenses à travers tes œuvres. Et les voies de bien ont trois bases auxquelles elles reviennent tous. La première, ce sont les efforts physiques. La deuxième, ce sont les efforts financiers. Et la troisième, ce sont ceux qui réunissent entre les efforts physiques et les efforts financiers. Ceux-ci sont les bases de toutes les voies de bien. À titre d'exemple, concernant les efforts physiques, il y a toutes les œuvres du corps, comme la prière, le jeûne, la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui est semblable à cela. Concernant les efforts financiers, il y a par exemple le versement de la zakat, ou alors les aumônes surrogatoires, mais également les dépenses que tu fais pour ta famille, pour tes enfants, et ainsi de suite. Tout ceci rentre dans les œuvres de bien par lesquelles il est possible pour le serviteur de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son argent. Et parmi les œuvres de bien, il y en a d'autres qui réunissent entre l'effort physique et l'effort financier. À l'exemple du pèlerinage, qui demande un effort financier afin de pouvoir s'y rendre et un effort physique afin de pouvoir l'accomplir. Ceci sont donc les trois bases des voies de bien et en découle de nombreuses manières de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il n'était possible d'accomplir le bien que d'une seule manière, alors il n'y a pas de doute que nombre de personnes se seraient lassées et auraient eu du mal à accomplir sans cesse la même œuvre. Mais de par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous une multitude de manières de nous rapprocher de lui, afin que ceci soit plus simple et plus léger pour nos âmes. Donc Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala, dans ce chapitre, il a commencé par mentionner trois versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier est une partie du verset 197 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ » Et tout ce que vous faites comme bien, Allah le sait. Puis il a mentionné une partie du verset 215, toujours de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Et tout ce que vous faites comme bien, Allah le sait parfaitement. Puis il a mentionné le verset 7 de Surat al-Zalzalah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَخ Quiconque fait du bien, fût-ce du poids d'une fourmi, le verra. Puis il dit, rahimahullah, et les versets à ce sujet sont nombreux. Donc dans ces versets, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'aussi minime soit le bien que tu accomplis, tu en trouveras la rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement tout ce que tu fais, comme œuvre de bien, tout comme œuvre de mal. Et il rétribuera les bienfaisants en fonction de leur bienfaisance, et les malfaisants en fonction de leur malfaisance. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs bienfaisants. Donc ceci nous montre que les voies du bien sont nombreuses, qu'il n'y a pas une seule manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que les manières de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sont multiples et variées. Et chacun trouvera dans ses manières ce qui lui est approprié, en fonction de ses capacités, en fonction de sa situation et en fonction de son temps. Parmi les gens, il y en a certains qui sont facilités dans la prière, et tu les vois multiplier les prières surérogatoires en plus de leur assiduité à leur prière obligatoire. Il multiplie la prière de nuit, il accomplit ses rawatib, il fait la prière de dhuha, et ainsi de suite parmi les prières surérogatoires. D'autres, ce qui leur est facilité, c'est la lecture du Coran. Ils le lisent et le récitent du matin jusqu'au soir. D'autres sont facilités pour accomplir leur appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et leur langue est sans cesse humide dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du matin jusqu'au soir, il évoque Allah par le tasbih, le takbir, le tahlil, en disant subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, et ainsi de suite. D'autres ont la main généreuse et sont facilités dans les aumônes. Dès qu'ils ont un bien, ils font une aumône, et ainsi de suite. Ils aiment dépenser leur argent pour rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font donc des aumônes, ils dépensent pour leur famille, pour leurs épouses, pour leurs enfants, et ainsi de suite. Et d'autres parmi les gens sont facilités dans l'étude de la science. Et ils consacrent leur temps à étudier la science religieuse. Il n'y a pas de doute que ceci fait partie des œuvres les plus méritoires. D'autant plus à notre époque où l'ignorance s'est propagée et que les gens ont besoin de personnes pour leur enseigner la science authentique, la science du livre et de la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. D'autant plus qu'à notre époque se sont multipliés les pseudo-savants ou les pseudo-étudiants qui se mettent en avant dans la prédication pour parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune science. Ceci nous montre donc qu'à notre époque, la communauté a grand besoin de personnes qui étudient la science religieuse. Comme l'a mentionné le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui disait à son époque que les pseudo-savants, les pseudo-prédicateurs s'étaient répandus au point que toute personne qui connaît un ou deux hadiths se met en avant dans la prédication et la fatwa comme s'il faisait partie des grands savants. Et il n'y a pas de doute qu'il est nécessaire de mettre fin à ce désordre. Et pour cela, il y a besoin de gens qui apprennent la science authentique. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a dit cela il y a plus de 20 ans. À l'époque où il n'y avait pas Internet, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc qu'aurait-il dit s'il avait connu notre époque et ce désordre que l'on observe sur la scène de la prédication? Il n'y a pas de doute que la situation est aujourd'hui bien plus grave, et c'est pour cela qu'il est nécessaire pour le musulman de comprendre que l'étude de la science fait partie des œuvres les plus méritoires, car le bienfait de cette œuvre ne se limite pas à la personne qui apprend, mais son bien se répandra autour d'elle, incha'Allah ta'ala. Et ceci fait partie des meilleures des œuvres, des meilleures des aumônes et des meilleures manières de lutter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Quoi qu'il en soit, les voies de bien sont nombreuses, comme on va le voir incha'Allah ta'ala à travers les hadiths que l'auteur rahimahullah ta'ala nous a mentionnés. Le premier hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné est rapporté par Abu Dhar Jundub ibn Junada radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: j'ai dit au messager d'Allah, quelles sont les œuvres les plus méritoires? Il répondit: la foi en Allah et la lutte sur son sentier. Je lui ai ensuite demandé: et quel est le meilleur des esclaves à affranchir? Il répondit: le plus précieux aux yeux de ses propriétaires et le plus coûteux. Je lui dis ensuite: et si je ne suis pas en mesure de le faire? Il me répondit: aide alors quelqu'un dans l'exécution d'une tâche, d'un travail, ou fais ce travail pour quelqu'un qui n'en a pas les capacités. Abu Dhar dit ensuite: j'ai dit, ô messager d'Allah, vois-tu si je n'ai pas la force de faire certaines œuvres? Il lui répondit: Alors épargne les gens de ton mal, ceci est certes une aumône de ta part en ta faveur. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc on voit dans ce hadith qu'Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des œuvres les plus méritoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « La foi en Allah et la lutte sur son sentier ». Et il faut souligner ici que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'ils interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des meilleures des œuvres les plus méritoires, des choses recommandées, des choses aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, leur objectif était de mettre en pratique ces choses. Ils n'interrogeaient pas simplement pour en prendre connaissance, mais leur objectif était immédiatement de mettre en pratique ce vers quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les orienter. Non pas comme le font beaucoup de gens aujourd'hui, qui posent des questions, entendent les réponses, mais ensuite ne les mettent pas en pratique. Parfois, certaines personnes n'interrogent que par curiosité. Il va demander « qu'est-ce qui est recommandé en séjour ?» Quelqu'un va lui répondre, mais il ne cherche pas ensuite à mettre en pratique cela. Peut-être qu'au moment de poser la question, il n'avait même pas l'intention de mettre en pratique, il voulait juste savoir. Et ceci est une erreur. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils interrogeaient pour pouvoir mettre en pratique. Car l'objectif de la science, la finalité, lorsque tu apprends une chose, c'est de la mettre en pratique afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au simple fait de connaître ces choses, sans avoir l'intention de les mettre en pratique, et sans chercher à les mettre en pratique, alors ceci n'est pas profitable. Comme l'ont mentionné les gens de science, la science sans mise en pratique est comme un arbre sans fruits. Donc il est nécessaire de suivre les compagnons en cela, de veiller toujours, lorsqu'on apprend une chose, à chercher à la mettre en pratique, à interroger sur le bien afin de le mettre en pratique, et ainsi de suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique ici que les œuvres les plus méritoires, ce sont la foi en Allah et tout ce que cela implique, ainsi que la lutte sur son sentier. Ensuite, Abu Dharr lui demande quel est le meilleur des esclaves à affranchir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc répondu le plus précieux aux yeux de ses propriétaires et le plus coûteux, c'est-à-dire celui qui est le plus aimé par ceux qui le possèdent et celui dont le prix est le plus cher. Et il n'y a pas de doute que celui dont telle est la description, il ne sera affranchi que par une personne à la fois forte. Et ceci nous fait penser à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 92 de Surat Ali Imran. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous donnerez de ce que vous aimez. Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous donnerez de ce que vous aimez. Lorsque tu fais une aumône, tu dois chercher à donner une chose qui a de la valeur, une chose que tu aimes. Non pas une chose méprisable et sans valeur que toi-même tu n'aurais pas acceptée. Comme le font certaines personnes lorsqu'ils se débarrassent de vieilles choses dont ils ne veulent plus, qui n'ont plus aucune valeur ou peut-être même plus aucun intérêt, plus aucune utilité. Et ils prétendent en cela faire une aumône. Non, si tu souhaites vraiment te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois dépenser de ce que tu aimes. On rapporte à ce sujet de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, que lorsqu'une chose lui plaisait parmi ses biens, il l'a donnée en aumône pour mettre en pratique ce verset. Et Abu Talha, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque ce verset a été révélé, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Allah a certes révélé sa parole « لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous donnerez de ce que vous aimez. » Il a alors dit « Et le bien que j'aime le plus parmi mes biens, c'est un jardin proche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de venir dans ce jardin et de boire de son eau. Donc Abu Talha, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce jardin c'est le bien qu'il aime le plus. Et il lui dit ensuite, je le donne donc en aumône pour Allah et son messager. Place-le donc, ô messager d'Allah, où tu le veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut donc surpris de cette aumône immense. Et il lui dit, ceci est un bien fructueux. Ceci est un bien fructueux. Et il lui dit ensuite, « Je vois que tu la donnes à tes proches. » Alors Abu Talha, radiyallahu ta'ala anhu, a partagé ce jardin et l'a donné en aumône à ses proches. On voit donc à travers cela que les compagnons radiallahu ta'ala anhum s'empressaient vers le bien. Lorsqu'ils écoutaient un verset, lorsque leur parvenait un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une orientation vers le bien, ils s'empressaient de mettre cela en pratique. Revenons donc au hadith d'Abu Dharr, qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il l'y a orienté vers l'affranchissement de l'esclave le plus précieux et le plus coûteux, il lui dit, si je ne suis pas en mesure de le faire, que je ne trouve pas un esclave de cette sorte à affranchir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc orienté vers une autre voie de bien, car comme on a dit, les voies de bien elles ne sont pas limitées. Et il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, aide alors quelqu'un dans l'exécution d'un travail, ou fais-le pour quelqu'un qui n'en a pas les capacités. C'est-à-dire si tu vois une personne accomplir une tâche difficile, tu lui viens en aide dans cela. Et ceci fait partie des œuvres de bien, des bonnes actions pour lesquelles tu es récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors s'il y a une personne qui a une tâche difficile à accomplir, mais qui n'en a pas les capacités, alors tu le fais pour elle. Tu portes une charge lourde pour une personne âgée. Si tu as un savoir-faire, tu aides tes frères en leur faisant profiter de cela, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des œuvres pieuses par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Abu Dharr, cherchant encore à profiter des orientations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, « Et si je n'ai pas la force de faire certaines œuvres ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui adresse cette recommandation immense sur laquelle il nous convient de méditer et lui dit, « Épargne alors les gens de ton mal, ceci est certes une aumône de ta part en ta faveur. » Ceci est le minimum. Si tu ne peux pas être profitable pour les gens, que tu ne peux pas leur être utile ni financièrement, ni physiquement, ni par la parole, ni par le bon conseil, ni par la science, ni par tes biens, ni autre chose que cela, alors au minimum, épargne les gens de ton mal. Ne leur cause pas de tort, ni avec ta langue, ni avec tes mains, ni autre que cela. Et en faisant cela, en épargnant les gens de ton mal, tu te mettras à l'abri des péchés. Et également, ceci est une manière de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un second hadith qui est aussi rapporté par Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Chaque matin, vous avez tous une aumône à verser pour chacune de vos articulations. » C'est-à-dire que pour chaque articulation de ton corps, tu es redevable d'une aumône quotidiennement. Et le corps comprend 360 articulations, grandes ou petites. Cela signifie que chaque jour, tu es redevable de 360 aumônes. Et qu'est-ce qui est visé par les aumônes ici? Est-ce que ce sont seulement les aumônes financières, des dons d'argent? Ou alors est-ce que c'est plus général que cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite clarifié qu'est-ce qui est visé par l'aumône. Et il nous a démontré que ceci est bien plus large que les aumônes avec ses biens. Et il a dit, chaque tasbih est une aumône. Lorsque tu dis subhanallah, ceci est une aumône. Puis il dit chaque tahmid est une aumône. Lorsque tu dis alhamdulillah, ceci est une aumône. Ensuite il dit chaque tahlil est une aumône. Lorsque tu dis la ilaha illallah, ceci est une aumône. Puis il dit chaque takbir est une aumône. Lorsque tu dis Allahu Akbar, ceci également est une aumône. Puis il dit le commandement du bien est une aumône. Lorsque tu ordonnes le bien à quelqu'un, tu lui ordonnes la prière, que tu lui ordonnes l'aumône, que tu lui ordonnes le jeûne, que tu lui ordonnes les bonnes actions, ainsi de suite. Ceci est une aumône que tu lui fais en sa faveur. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Et l'interdiction du mal est une aumône. » Lorsque tu vois une personne faire un péché, et que tu lui interdis ce péché, ceci est une aumône également. Donc on voit à travers cela que les voies du bien sont nombreuses. Et on verra dans d'autres hadiths que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné d'autres œuvres qui sont également des aumônes. Mais on voit dans ce hadith que ces simples paroles que tu prononces avec ta langue, lorsque tu dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, tout ceci ce sont des aumônes. Ce sont des œuvres de bien par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu commandes le bien, que tu interdis le mal, ceci également fait partie des œuvres de bien pour lesquelles tu es rétribué auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que pour chacune de nos articulations, nous sommes redevables d'une aumône. Donc chacun d'entre nous est redevable de 360 aumônes quotidiennement. Tu dois donc multiplier les œuvres de bien afin de t'acquitter de cela. Mais médite sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, Et il suffit à la place de cela de prier deux unités dans la matinée. Allahu Akbar. Il suffit à la place de cela de prier deux unités dans la matinée. La prière de Dhuha, la prière de la matinée. Si tu accomplis deux unités durant la matinée, tu te seras acquitté de toutes les aumônes dont tu es redevable quotidiennement. Ceci est donc une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à ses serviteurs. Et ceci te montre l'importance de cette prière et son rang immense. Car celle-ci te permet de t'acquitter des aumônes dont tu es redevable quotidiennement. On voit donc dans ce hadith que l'aumône a un sens large. La sadaqa, ce n'est pas seulement l'argent que tu donnes à un nécessiteux ou à la mosquée ou pour une autre œuvre de bien. Mais entre dans cela l'ensemble des bonnes actions, parmi les paroles et les actes. Et pour t'acquitter de cette aumône dont tu es redevable quotidiennement, il te suffit d'accomplir deux unités de prière dans la matinée. Et ceci nous prouve que cette prière est une sunnah, et qu'il fait partie de la sunnah de l'accomplir quotidiennement, afin de t'acquitter de cette aumône. Et les gens de science ont mentionné que la prière d'Al-Dhuha, la prière de la matinée, son temps est compris entre le lever du soleil et son zénith. C'est-à-dire qu'elle commence approximativement 15 à 20 minutes après l'heure du shuruq. Vous voyez, sur le calendrier des horaires de prière, vous avez l'heure du fajr, puis ensuite l'heure du shuruq, qui correspond au lever du soleil. À l'heure du shuruq, il n'est pas permis de prier. Mais il faut attendre environ 15 à 20 minutes, et à partir de là, il est légiféré de commencer à prier Salat al-Duha. Et la plage horaire de cette prière s'étend jusqu'à l'approche du temps de la prière de Dhuhr, c'est-à-dire environ 10 à 15 minutes avant l'heure de la prière du Dhuhr. À ce moment-là, le temps de la prière de Dhuhr est terminé. Et toute cette plage horaire, il est légiféré pour toi de faire la prière de Dhuhr. On voit donc que son temps est large, et ceci également est une facilité. Mais le mieux est de l'accomplir en fin de matinée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith au sujet de cette prière qu'il a appelée la prière des repentants de ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle a lieu au moment où le sol devient chaud, c'est-à-dire en fin de matinée. C'est pour cela que les gens de science ont mentionné qu'il est préférable de retarder la prière d'Al-Dhuha à la fin de la matinée. Et ceci est recommandé. Mais s'il y a une difficulté en cela, ou qu'il t'est seulement facilité de l'accomplir en début de matinée, alors il n'y a pas de gêne et tu obtiendras le mérite de cette prière. On voit donc à travers ces hadiths que les voies de bien sont diverses et nombreuses et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité en nous permettant d'accomplir des œuvres simples dont les récompenses sont immenses, à l'exemple de cette prière de deux unités qui te permet de t'acquitter de 360 aumônes desquelles tu es redevable quotidiennement. Ceci doit donc nous motiver à ne pas négliger cette prière, et y être assidu. Et il est à souligner également qu'elle ne se limite pas à deux unités, mais qu'il t'est permis de prier jusqu'à 8 unités pour la prière d'Al-Dhuha, en les accomplissant bien sûr deux par deux. Et certes, celui qui fait cela, sa récompense n'en sera que plus grande, et comme vous le savez, les hasanat, les bonnes actions, sont récompensées par 10, semblables à elles, jusqu'à 700, ou plus encore, en fonction de la sincérité du serviteur et de son application à accomplir ses actions de la meilleure manière, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va donc s'arrêter là pour ce soir, incha'Allah ta'ala. On verra les autres hadiths dans les prochains cours. Bi'inillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.